Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Bon matin, docteur.
Oui, Marc-André, Raphaël et Serge.
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est quelque chose, hein, ce qu'on vient d'entendre quand même?
Ben, c'est quelque chose. Je réponds à vos questions. Allons-y.
Ben, d'emblée, je suis tenté de vous demander si on prend les maladies mentales à la légère. Parce que là, tu sais, c'est difficile de...
Oui, la réponse, c'est oui.
Ouais, ben c'est ça, parce que tu sais, c'est difficile de faire pire, là.
Pourquoi c'est... Quelle était ta question, déjà?
Est-ce qu'on prend la maladie mentale à la légère?
Oui. Et de quoi parle-t-on sur la place publique? La santé mentale.
Mm-hmm.
Pourquoi tu utilises ce vilain, cette vilainie qu'est la maladie, le terme maladie mentale? Pourquoi ne parles-tu pas de santé mentale?
C'est vrai que ce serait plus à propos.
Hein?
Voilà.
Mais on c'est... a banalisé. Alors, première chose, mm-hmm. on a banalisé maladie psychiatrique.
Oh! Ouais.
On a banalisé trouble mental. Alors, vous n'avez plus de trouble mental, vous avez un problème de santé mentale. OK. Allons-y. Prochaine question. Alors, ça, c'est arrivé il y a à peu près 25 ans. La psychiatrie, non, c'était un préjugé, stigmatisme, étiquetage, maladie mentale. Oh! Vilainie qu'on ne saurait voir, c'est comme les saints ou les femmes qui allaitent, on veut pas voir ça. Correct. Mmh. Alors, il y a 25 ans, oui. Vas-y, continue,
oui,
prochaine question. Oui,
c'est intéressant, parce qu'on a placé Patrick Lagacé tout juste avant vous, exactement oui. pour ça. Et ce que je voulais dire là-dedans, la question qui me perturbe le plus, c'est comment ça se fait que l'homme a le courage de vouloir se prendre en main, de vouloir penser à sa santé mentale, s'en va voir la médecin. La médecin dit « Oui, oui, il faut s'en occuper le plus vite possible. »
Attends un petit peu, reprends oui. ça, là. L'homme veut prendre soin de sa santé mentale. Non, là, question, non, on n'y est pas, Marc-André.
C'est quoi, d'abord?
Non, l'homme est en détresse.
Oui.
Sa sœur l'amène.
Mm-hmm.
Elle l'a amené chez le médecin, dans un premier temps, médecin de famille, si j'ai bien compris.
Oui.
Deuxième temps, à l'urgence de l'hôpital.
Mm-hmm.
OK, oui, il a été vu par un psychiatre.
Ouais.
Alors, la sœur réalise que son frère est en détresse psychologique importante.
Mm-hmm.
Non, il ne veut pas prendre soin de sa santé mentale, là. Tu sais, prendre soin de sa santé mentale, c'est de faire des choses qui vont faire en sorte que tu te sentes mieux. Maintenant, il peut arriver des situations où tu plonges dans une détresse épouvantable, t'amenant au désespoir. On n'est plus dans la promotion de la santé mentale, là.
Mm-hmm.
Tu sais, il va falloir se doter de mots très clairs. Vas-y, continue.
Mais dans les faits, la question, c'est comment ça se fait que malgré tout ce processus-là,
oui.
il n'ait pas été pris en charge, puis que le psychiatre qui l'a vu a dit, « Tiens, v'là trois dépliants, là, puis va-t'en chez vous, puis ça va bien aller. »
Alors, la réponse à ça, une première réponse, c'est « Il est possible. » que le problème de santé mentale de notre individu, santé mentale entre guillemets, ait été banalisé. Et oui. Oui, il y a une banalisation de la psychiatrie. On n'utilise à peu près plus le nom. Alors, Robert Gifford, à Québec, est devenu un institut universitaire de santé mentale. L'IUISCQ, puis tatata, là.
Mm-hmm.
Comprends-tu un long acronyme? Oui. Alors, la psychiatrie est disparue, mais les maladies psychiatriques et les troubles mentaux ne sont pas disparus. Alors, il y a une banalisation. Et si vous voulez avoir la plus belle preuve de ce que... Écoute, je me suis tapé deux fois Anne-Marie Dussault hier soir. C'est toute une soirée, là. Je me suis tapé l'émission, parce que je l'ai réécouté en reprise.
Okay.
Parce que je me doutais bien que on parlerait de ça aujourd'hui. Il y avait une psychiatre, Marie-Ève Coton.
OK.
Qui travaille à Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est un hôpital psychiatrique à Montréal, encore.
Mm-hmm.
Il y avait un avocat qui s'occupe de dresser des requêtes pour enfermer du monde contre leur gré dans un hôpital psychiatrique. Et il y avait, et c'était de toute beauté, imaginez-vous donc, la responsable du regroupement des centres de crise en santé mentale au Québec. Il y en aurait une vingtaine, et j'ai appris. Et c'est madame qui a eu le plus de tendresse avec l'avocat. La pauvre psychiatre, n'a pas sorti grand-chose. Anne-Marie Dussault ne s'est pas adressée à elle en premier. Et la dame, la responsable du regroupement des centres de crise en santé mentale, elle l'avait l'affaire. Écoute, elle a dit, là, on a simplement recevoir un coup de téléphone du psychiatre ou de la travailleuse sociale.
Mm-hmm.
On prend le monde en charge, on a des lits, on les suit de près, on vérifie la dangerosité suicidaire. J'eus cru entendre une psychiatre.
Puis tu sais, j'aimerais ça qu'on profite de votre expertise, Doc, ce matin.
Hey, les ressources, 20, il y en aurait 20 dans le Québec. 20 centres de crise en santé mentale.
Hmm.
Ouais.
Parce que...
Puis la petite brochure, les brochures là, pour la détresse en santé mentale, c'est des numéros de téléphone. Tu sais, telle aide, tel suicide, puis telle patente.
Mm-hmm.
Hein? Au téléphone, on règle ça. Mais là, les centres de crise, c'est en fait accusé un peu de pas trop intervenir, puis le taux de probablement de suicide est assez élevé. Alors là, ils ont eu des budgets avec des lits. Ils peuvent accueillir des personnes. Mais, à l'hôpital, il n'y a pas de budget, puis il n'y a pas assez de lits, semble-t-il. Tiens, intéressant. Oui, je t'écoute.
Oui, bien, c'est ça. Si je voulais profiter de votre expérience et de vos compétences là-dedans, parce que, tu sais, comment on peut en arriver à traiter une personne qui est en détresse comme ça? C'est quoi les étapes?
Non, pas grave. Oui, avant de traiter, ouais. Je pense que Marie-Ève aurait dû dire, premièrement, on essaie de faire un diagnostic.
Ouais.
Bon. La cause la plus fréquente de détresse suicidaire, il y en a deux maintenant. OK?
Oui.
La cause la plus fréquente, ce qui amène quelqu'un, il y a 1000 cas de suicide, il y a 3 suicides par jour au Québec.
Mm-hmm.
Alors, bon an, mal an, et ça, c'est embarrassant pour les centres de crise en intervention en santé mentale, c'est qu'il y a 1000 cas de suicide par année au Québec depuis un grand bout de temps. Je me souviens pas combien d'années, là, mais avant, c'était 1200. Puis on dirait que c'est gelé à 1000 par année.
Mm-hmm, OK.
Malgré toutes les campagnes de publicité, d'appeler, pogner le téléphone, puis appeler tel suicide, puis telle aide, puis mm-hmm. tel jeune, puis telle patente. OK?
Ouais.
Moi, je les appelle respectueusement telle patente. Malgré toute l'accessibilité au téléphone, on semble... Bon, pourquoi? Premièrement, la maladie psychiatrique qui engendre le plus haut taux de suicide, c'est laquelle? Est-ce que tu le sais, toi, Marc-André?
Le plus haut
Raphaël
taux de suicide,
ou Serge? Hein? Pardon? Oui. Qu'est-ce qui engendre le plus haut taux de suicide?
C'est une bonne question.
Tu sais pas. Bon, OK. Je veux pas vous mettre mal à l'aise. C'est la
pas.
Schizophrénie. Okay. Schizophrénie non traitée. Alors, 30% vont se suicider.
OK.
OK? 1 sur 3 qui est atteint de schizophrénie non soignée va s'enlever la vie. Pas mal de monde, là. Puis on retient que la schizophrénie, ça touche un être humain sur 100 autour du globe. C'est la même chose dans toutes les nations. Alors, il est important de traiter la schizophrénie. Deuxièmement, la dope puis l'alcool. Hein? La dope puis l'alcool, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des problèmes au quotidien. Ça amène une conjointe ou un conjoint qui lève les feutres.
Mmh.
Oh! Peine d'amour. Ben oui, peine d'amour, tu clins. Écoute, t'étais plus là, t'étais gelé comme une balle. Elle s'est tannée.
Ouais.
C'est une grosse cause de suicide. Alors qu'on se dise les vraies choses. Tu comprends?
Ben, il est peut-être temps qu'on se dise les vraies choses.
Oui, oui.
Même, hein? Okay. On est en retard.
Alors, prendre de la dope, puis boire comme un trou, ça va vous causer des difficultés conjugales, puis la bonne femme va vous sacrer d'or. Puis là, votre sœur va vous ramasser, puis elle va vous emmener à l'hôpital.
Mm-hmm.
J'en ai souvent, là. Et dans un pas bel état.
Ah, ouais.
Et là, attends un peu. Là, on a des personnes qui souffrent de schizophrénie, qui sont pas soignées, qui prennent beaucoup de boissons ou qui prennent beaucoup de cannabis avec des amphétamines. Ça, c'est mon problème, là. Wow!
C'est tout
là,
un
on
mélange,
est rendu qu'on parle de comorbidité. Comorbidité, ça veut dire qu'il y en a plus qu'une. Il y a un associé. Là, ça commence à être compliqué. Et il y a des psychiatres qui, dès qu'ils voient de la dope apparaître, ils capotent puis ils disent, centre de crise en santé mentale, c'est un toxicomane. Alors, mais, accompagnant, et il porte aussi le diagnostic de psychose toxique. Bon, il est viré sur le top à cause de la dope. Non, il était sur le top, puis il a pris de la dope. Oh! Ah, ça, c'est... On sait maintenant que c'est un candidat à très haut risque de s'enlever la vie. Vous me suivez?
Oui.
Tranquillement?
Oui, oui,
on
oui.
Parlait trop vite? C'est clair jusque-là?
C'est parfait.
Bon. Et lorsqu'on fait des émissions, comme Anne-Marie Dussault fait, elle a eu avantage à laisser plus de temps de glace à Marie-Ève Coton, qui est psychiatre, qu'à la responsable de l'association des centres de crise en santé mentale. Parce que là, avec vos centres de crise en santé mentale, je ne suis pas sûr que vous allez diminuer le taux de suicide au Québec. C'est du bon monde, ils sont bien fins dans les centres de santé mentale. C'est pas un département de psychiatrie.
Ouais.
Non, oh, département de psychiatrie. Maintenant, il y a tout, comme disait Patrick tout à l'heure, il y a toute une réflexion à faire sur les 1200 psychiatres. Sur les, il faudra appeler au collège de médecins. Sur les 1200 psychiatres au Québec, quel est le pourcentage d'entre eux qui passent au moins 5 heures par semaine à évaluer et traiter des personnes qui souffrent de schizophrénie?
Il y a sûrement moyen de réorganiser ça, hein?
Écoutez, la schizophrénie, c'est un peu comme les cancers pour un médecin de médecine générale. Tu sais, la maladie, la schizophrénie, là, j'en parle, puis je vais en reparler, puis je veux pas vous tanner avec ça. Mais c'est le trouble bipolaire, ça roule, ça baigne dans l'huile, hein? On entend ça régulièrement, les maladies bipolaires. Puis depuis que notre ami Pelado souffrait supposément d'un trouble bipolaire, ça a été popularisé. Autrement dit, c'est vraiment accepté. Mais la schizophrénie, il y a un os dans la moulinette. C'est pas une maladie agréable.
Doc, on va...
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou
ben,
si
non, ça,
schizophrénie,
c'est clair.
Ça vous dérange pas du tout?
Ben non, c'est clair que c'est très préoccupant, effectivement, puis on s'en est parlé tout au cours de la semaine, et plus j'en apprends là-dessus, et plus je suis inquiet de ça et de la façon dont on parle et on traite de santé mentale. Mais bref...
Oui, on va parler de maladie, maladie mentale, poliment, respectueusement, sans mépris. Mais ça existe, et c'est bel et bien, la schizophrénie est bel et bien une maladie du cerveau.
Oui.
OK? Puis c'est pas de la faute de personne. Marc-André, avant qu'on termine.
Oui.
Une petite chose intéressante. Raphaël a fait une recherche sur les grossesses et l'intervalle entre les grossesses. Je suis pas un bon candidat. Tu sais, moi, je suis né le 14 janvier. Et puis, mon frère qui me suivait est né le 1949, puis mon frère est né le 23 décembre 1949.
Ah oui, dans la même année. Il y en a un de fait, on passe à un autre.
Maudit coup. Raphaël, pas chanceux, matin avec son étude.
Ça donne un mauvais résultat, finalement.
Oui, je pesais 9 livres et 1 once, puis mon frère Claude, à la fin de l'année, pesait 9 livres, 3 onces. Je suis pas gros, mais j'étais un gros bébé.
Ah ouais, des papiers modèles. Merci, Doc.
Alors, des bébés de petit poids. Écoutez, c'est pour ça que les études comparatives sur des grands groupes. OK, sur des grands groupes, c'est vrai. Maintenant, c'est pas à tout le monde. Là. Commencez pas une campagne de peur. 2 bébés dans la même année, puis vous allez avoir un accouchement prématuré puis un bébé de petit poids. Non, la principale cause des bébés de petit poids, Marc-André ou Raphaël, Serge, principale cause des bébés de petit poids?
Les consommations quelconques?
De?
Aucune idée. Ben, de drogue ou d'alcool?
La cigarette.
Ah oui, OK.
Ouais, une des premières causes, Une des premières causes reconnues. Les femmes qui fument pendant la grossesse, votre bébé a au moins 1 livre ou 2 de moins. Ah, ça, c'est connu depuis... On nous avait enseigné ça, jadis, en 1972, à la faculté de médecine, 73. Oui, c'est ça, 72. Je suis diplômé depuis 73 ou 74.
Pierre.
Alors, au début des années 70, on enseignait que le tabagisme chez la femme enceinte avait comme répercussion directe un bébé de petit poids, puis c'est facilement compréhensible. La boucane, c'est pas de l'oxygène. Mm-hmm. C'est du CO2.
C'est ça.
Maxime Bernier.
Ça, c'est un autre dossier. Donc, on vous retrouve à 9h05.
Lorsque la mer respire du CO2 au lieu de respirer l'oxygène libéré par les plantes et les arbres, elle a un bébé d'une livre ou deux de moins à la naissance.
À tantôt, Pierre.
Tout ramène à Maxime.
Merci, à tantôt. 9h05 pour la commission PM. Pierre Maillot, qu'on peut entendre tous les matins aux alentours de 7h10.